Bonsoir à tous, le journal Loïc Barrière. La qualification historique du Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales, un match remporté 1-0 face au Portugal. Une victoire célébrée au Maroc, mais aussi en France. Nous écouterons Driss Etazaoui, élu d'Évreux, président de l'Association des élus de France et supporter des Lions de l'Atlas. Un rassemblement contre le président Kais Saied aujourd'hui à Tunis. L'Italie accepte d'accueillir 3 navires humanitaires transportant des migrants. Nous reviendrons sur les 2 prix littéraires remis cette semaine par la Grande Mosquée de Paris avec l'un des lauréats Xavier Leclerc, mais aussi l'académicienne Hélène Carrère-Dancos et la maire du 5e arrondissement Florence Berthou. Enfin, la ville de Douai se mobilise pour inciter les personnes âgées à se vacciner contre le Covid. Entretien avec le maire Frédéric Chéreau. La joie des supporters marocains cet après-midi après un match plein de suspense et riche en émotions. C'était donc cet après-midi au stade El Toumama de Daouha. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales du mondial qui se déroule au Qatar sur le score de 1-0. Un but marqué par l'attaquant Youssef Ennesri avant la fin de la première période. Une victoire historique pour le Royaume, mais les supporters ont suivi ce match bien au-delà du Maroc, dans le monde arabe, en Afrique. Une rencontre suivie aussi avec ferveur par la diaspora marocaine à travers le monde, en particulier en France. Un match suivi dans les cafés, les restaurants ou au sein des familles. Dès la victoire acquise, les supporters sont sortis dans la rue pour célébrer l'événement. Le Maroc, premier pays africain à atteindre le dernier carré, a résisté jusqu'au bout face aux Portugais. Héroïque durant ce match, les Lions de l'Atlas avaient déjà créé la surprise en éliminant la Belgique et l'Espagne. Nous avons joint il y a quelques minutes Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, élu d'Évreux et supporter bien sûr des Lions de l'Atlas.
Bon, bah écoutez, l'émotion, mon cher public, n'est pas redescendue. Ici, c'est l'euphorie générale. Il y a beaucoup de monde pour regarder le match et avoir apprécié ce match. C'est formidable, il n'y a pas suffisamment de mots importants. Le dictionnaire ne suffirait pas pour décrire l'immense joie qui est la nôtre aujourd'hui. C'est une surprise et c'est une émotion sans commune mesure, sans rien de pareil. C'est formidable. C'est l'histoire avec un grand H.
Et donc, c'est la fête ce soir à Évreux et dans de nombreuses villes de France. Fête.
Ça va me coûter cher parce que j'avais mis une publication sur Facebook pour dire à celles et ceux qui veulent regarder le match que si le Maroc gagnait, je payais une tournée générale. Donc, c'est le cas. Les Marocains, la sélection marocaine a fait en sorte que je paye aujourd'hui la tournée générale, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Et là, je pense qu'on s'apprête à sortir pour aller dans les rues de la ville d'Évreux et manifester notre joie et notre bonheur avec l'ensemble de nos concitoyens et des administrés évreuxiens.
Comment expliquez-vous cette victoire des Marocains, même si c'est une surprise? Il y avait tout de même une cohésion au sein de l'équipe.
Alors c'est une surprise, oui, mais c'est une surprise comme ça l'a été avec le match contre la Belgique, avec le match contre l'Espagne, et puis aujourd'hui contre le Portugal. Bon, mais écoutez, ils ont réalisé un exploit. Cet exploit-là, il n'est pas du hasard. C'est pas un concours de circonstances. On a une équipe effectivement qui rayonne et qui dégage quelque chose d'assez formidable. Quoi. Il y a une vraie cohésion, il y a une harmonie dans cette équipe. Il y a cette capacité à défendre finalement, parce qu'on a bien vu que du côté défensif, cette sélection nationale, les Lions d'Atlas, eh bien, ont su finalement verrouiller la défense et faire en sorte que les Portugais ne puissent pas pénétrer, même si cela se sont effectivement donné un certain nombre d'occasions. On a eu quand même sueur froide, mon cher Loïc.
C'est une victoire qui est célébrée au-delà du Maroc même. On imagine la joie des Marocains dans le royaume, mais c'est célébré dans de nombreux pays à travers le monde.
Alors, je le dis, c'est pas seulement la victoire du Maroc, c'est pas la victoire d'un hymne, c'est l'hymne de l'Afrique, c'est la victoire de tout un continent aujourd'hui. Ça l'était déjà pour ce quart de finale, ça le serait encore plus dans la perspective du demi-finale. Enfin, c'est l'Afrique et c'est l'ensemble des pays arabes, et je pense que ça va même au-delà. Tout le monde est derrière cette équipe.
Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, élu d'Évreux. En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté contre la politique menée par le président Kais Saied, un rassemblement organisé une semaine avant les élections législatives. L'Italie a accepté d'accueillir 3 navires humanitaires transportant des migrants. Le ministère de l'Intérieur a donné son accord parce que le mauvais temps s'approche et les conditions de navigation auraient rapidement fait courir un risque aux personnes à bord. Jeudi soir, la Grande Mosquée de Paris a remis son premier prix littéraire à Xavier Leclerc pour son roman « Un homme sans titre » chez Gallimard, un roman consacré à son père, algérien, immigré en France. On écoute le lauréat, Xavier Leclerc.
Je suis absolument bouleversé par ce prix. C'est toute la culture de l'Andalousie à travers le dialogue et l'incarnation du jury. Jean-Pierre Elkabbach, Hélène Carrère d'Encausse et tous les membres du jury sont extraordinaires et je trouve que c'est une source d'inspiration pour moi, cette culture du dialogue et je suis très ému que la vision très souvent caricaturale qu'on a de l'islam soit battue en brèche par tant de lumière ce soir.
Et vous avez dédié ce prix à votre père?
Oui. Il s'agit de sa vie et il s'agit à travers lui de toutes ces vies minuscules qui ont tant de mérite et qui sont très souvent si peu reconnues malheureusement.
Xavier Leclerc, auteur du roman « Un homme sans titre » chez Gallimard, le prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris lui a été remis par Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
Je pense que précisément un prix littéraire de la Grande Mosquée, c'est la démonstration que l'on peut, je dirais à travers la parole, non seulement se retrouver, mais être en communauté d'esprit et effacer tout ce qui, toutes les différences, toutes les mauvaises pensées, tout ce qui paraît difficile à surmonter.
Vous avez salué un livre extrêmement bien écrit.
C'est un roman, car c'est un roman, avec l'histoire de la famille, il a écrit un roman, car c'est très romanesque. C'est très très bien écrit. Je passe ma vie à donner des prix à l'Académie. Je sais ce que c'est. Et justement, c'est bien écrit et en même temps, il n'y a aucun de ses défauts. C'est l'histoire de sa famille, mais il n'y a pas ce repli sur soi qu'on trouve dans toutes les autofictions. Ce n'est pas une autofiction. C'est une histoire de la rencontre avec la France et ce qu'il incarne.
On a senti une grande émotion chez cet écrivain Xavier Leclerc en recevant ce prix.
Absolument. Mais moi, j'avais eu cette émotion en le lisant.
Et ça a un sens de lui donner le premier prix de la Grande Mosquée de Paris.
C'est pour ça que je dois dire, d'emblée, j'ai dit, c'est ça, c'est à lui qu'il faut le donner.
Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et parmi les personnalités présentes à la Grande Mosquée de Paris, la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoux, elle salue la création de ce prix.
Ça, je pense que c'est un tournant. C'est extrêmement important parce que ça témoigne d'abord de l'importance de l'écrit, comme la secrétaire perpétuelle de l'Académie française l'a rappelé. Le mot, le verbe, c'est une manière aussi d'entrer en contact avec l'autre, avec le différent. Ça montre que la bataille contre l'extrémisme, la bataille contre toutes les logiques exclusives d'ostratisation, etc., ça passe véritablement par le livre et par l'écrit. Et je trouve très révélateur que la Grande Mosquée aujourd'hui, avec son recteur qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour promouvoir un islam de France, un islam ouvert, eh bien, je trouve que c'est une belle chose que ce prix ait lieu et c'est très révélateur. Je pense véritablement d'un tournant, ou si ce n'est pas un tournant, en tout cas, une belle évolution, ce qui permet de rappeler que l'islam est trop souvent dévoyé, mais que l'islam est une religion de tolérance aussi, et surtout. Donc ça passe évidemment tout ça par des messages de paix et par le fait d'aller sur un terrain aussi intellectuel.
La maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoud, autre lauréate du prix de la Grande Mosquée de Paris dans la catégorie essai, Karima Berger pour les Gardiennes du silence aux éditions Albin Michel. À l'occasion de cette récompense, Radio Orient rediffuse la bibliothèque de Radio Orient avec Karima Berger ce soir à 23h et demain à 19h. À l'approche des fêtes de fin d'année, des élus se mobilisent pour inciter les personnes vulnérables à se faire vacciner contre le Covid, cela alors que le nombre de cas est en hausse depuis plusieurs semaines. Je vous propose d'écouter le maire de Douai dans le Nord, Frédéric Chéreau, a décidé de profiter de la distribution des colis de Noël aux plus anciens pour les inciter à faire leur rappel.
Comme beaucoup d'autres communes, nous avons depuis longtemps une distribution de colis aux personnes de plus de 65 ans à Douai. Et c'est un moment très convivial, très joyeux, où une grande partie des personnes de plus de 65 ans se déplacent. On a 6500 personnes au total sur 2 jours qui viennent dans une demi-douzaine de sites à travers la ville. Et on s'est dit que finalement, ça pouvait être intéressant de faire de ce moment où on rencontre tant de personnes un moment aussi utile, où on propose la vaccination à ceux qui le souhaitent. Alors, tout le monde ne le fait pas, ne serait-ce parce qu'il y a des gens qui sont déjà vaccinés, qui ont fait leur rappel. Mais on a beaucoup de personnes qui sont très contentes de le faire et ça ne désemplit pas.
Et c'est important pour l'ensemble de ces personnes, également pour les plus jeunes personnes qui iront voir leurs parents ou grands-parents durant les fêtes de Noël.
C'est ça. Et puis alors vous voyez, ce même jour, nous, nous inscrivons les aînés à un goûter qui aura lieu à la rentrée en janvier. Et les gens sont contents aussi de savoir que, comme ils seront vaccinés, ils pourront venir sans risque à ce goûter où il y a plusieurs centaines de personnes dans la pièce avec un spectacle. Ça les tranquillise, ça les rassure et c'est très bien.
Et comment cela se passe? Il faut prendre rendez-vous? Alors les personnes peuvent venir
Non, absolument pas. Les gens reçoivent un ticket pour venir chercher leur colis. Donc il y a simplement une plage horaire de 3 heures dans l'après-midi. On peut venir chercher son colis. Et si on a envie, après le retrait du colis, on passe simplement au vaccin. Il y a quoi? Quelques minutes d'attente. Ça va très vite, c'est sans rendez-vous et c'est gratuit.
Et aujourd'hui, vous ressentez une demande accrue de la part de ces personnes?
Alors, on ne ressentait pas forcément de demande, c'est nous qui avons pris l'initiative. Et moi, je veux en remercier aussi la communauté professionnelle territoriale de santé, les médecins de Douai, qui ont vraiment répondu présent. On les a sollicités mi-novembre. Je leur ai dit, est-ce que vous seriez capable de vous retourner pour faire ça sur 2 jours? Et les médecins et les infirmiers et infirmières nous ont dit, pas de problème, on fait ça, on sera là. Donc, ils sont présents au total sur 3 sites différents pendant 2 jours. Et on aura vacciné un bon nombre de personnes.
Quel type de conseils vous pouvez donner à l'approche justement de la fête de Noël, de la fête du Nouvel An?
Mais écoutez, le premier conseil, c'est si on est éligible d'aller se faire vacciner. Les rappels sont valables au maximum 6 mois, donc c'est important d'être bien protégé, pas seulement pour soi, pour ses proches. Et puis n'oublions pas de porter le masque quand on est en présence de personnes fragiles ou dans les transports en commun. Il y a une vague actuellement de Covid, alors évidemment les services d'urgence ne sont pas saturés parce que la population quand même est globalement pas trop mal vaccinée. Mais voilà, c'est important de ne pas prendre de risques. Donc le masque et le vaccin, c'est encore ce qu'il y a de meilleur.
Sur cette question du rappel, souhaiteriez-vous une communication plus claire du gouvernement sur ce rappel disponible pour l'ensemble de la population?
Je pense que ça pourrait être pas mal, effectivement, parce que certaines personnes ne sont pas complètement au clair sur est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Alors bien sûr, on peut poser la question à son médecin ou à son pharmacien, mais c'est quand même important d'avoir une information qu'on peut comprendre et qu'on peut trouver dans la presse ou sur Internet.
Sachant que les différents syndicats de pharmaciens ont réaffirmé ces derniers jours que ce rappel était accessible à l'ensemble de la population, avec un délai bien entendu de plusieurs mois après la dose précédente.
Et c'est sans doute ça qui fait que certaines personnes ne se pensent pas éligibles, c'est qu'on est éligible sur le papier, mais pour l'instant je pense qu'il y a quand même une priorité, et c'est normal, qui est donnée aux personnes les plus âgées, et les autres arriveront derrière.
Vous conseillez également à vos concitoyens de se faire vacciner contre la grippe durant cette période de Noël?
Oui, moi je le recommande, et je le recommande en l'ayant fait personnellement. Voilà, donc c'est pas simplement des paroles en l'air, je pense que c'est un vaccin très utile. C'est un vaccin qui a, à ma connaissance, peu de contre-indications, en tout cas je n'en ai jamais vécu. Et de toute façon, le vaccin provoquera toujours moins de problèmes que la maladie si on l'attrape. La grippe peut être mauvaise, on me dit que cette année elle risque d'être assez forte. La vague n'est pas encore là, c'est le bon moment pour se faire vacciner.
En tant qu'élu, vous avez également un rôle d'information, ce que vous faites aujourd'hui?
Bien sûr, et c'est un sujet dont je reparlerai dans le Facebook Live du maire. C'est important de passer ces messages-là et de dire que soi-même, on y croit et qu'on l'a fait. Voilà, moi, je me suis fait vacciner, je le redirai. On a quelque part modestement aussi un rôle exemplaire quand même comme élu.
À l'approche de Noël, vous souhaitez adresser un message également.
Exactement, je souhaite un bon Noël et de très belles fêtes de fin d'année à vos auditrices et auditeurs.
Le maire de Douai, Frédéric Chéreau, au micro de François-Xavier de Calonne. Enfin, un gros plan sur la coopération entre le Québec et la Tunisie avec Sarah Hamdi, traductrice canadienne d'origine tunisienne. Elle travaille pour la fondation du Cirque du Soleil. Le mois dernier, elle était présente au village de la francophonie lors du sommet de la francophonie à Djerba. Elle revient sur les liens et la coopération entre le Québec et la Tunisie.
On a plusieurs projets, des projets d'études, des projets de travail et d'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est sûr qu'on offre un peu une panoplie de programmes. Notre programme phare, c'est un programme d'entrepreneuriat en économie verte qui est destiné aux 18-35 ans. Et donc, en fait, ce qu'on présente, c'est un peu l'opportunité d'exporter ses connaissances et son savoir-faire qu'on a développé dans la francophonie globale, en Tunisie, au Bénin, au Mali. Et en fait d'aller appliquer ses compétences et ses connaissances au Québec, donc un peu exporter son projet d'entrepreneuriat et s'implanter dans un nouveau marché qui présente souvent des nouveaux défis. Ici, par exemple, on encourage les jeunes à commencer des projets. On leur offre un certain niveau de fonds pour que, à hauteur du projet, l'opportunité de rembourser leurs billets d'avion et leurs certains frais qui sont afférents à leur immigration. Donc, c'est un projet qui va prendre entre 5 et 6 mois. Une fois au Québec, on a un accompagnement, un mentorat. Il y a tout pour les jeunes. Là, on essaye d'encourager.
Et c'est un projet que vous faites découvrir à l'ensemble des pays francophones.
Exactement. On a plusieurs projets très intéressants, dont des projets de conservation de plantes en voie de disparition, de recyclage, de zéro plastique. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets qui ont des belles racines quand même, qui ont commencé à faire leurs preuves. Qui ont juste besoin d'un petit boost et de beaucoup de croire en soi, en fait. C'est ça qu'on essaye de vendre un peu.
On le comprend à travers votre propos, la francophonie est un moyen pour établir des partenariats et des actions.
Oui, tout à fait, exactement. On a une occasion unique de se retrouver au Bénin à un moment, au Cameroun à un autre, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir se promener, de rencontrer différents mondes qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement rencontrés. Donc c'est excellent, là, on a vraiment cette opportunité là aujourd'hui. Oui.
C'est cette diversité culturelle qui est mise en avant. Quel regard vous portez sur cela ?
Oui, alors moi, je suis d'origine tunisienne. J'ai un peu les pieds, un pied en Tunisie, un pied au Québec, je dirais. Donc c'est sûr que c'est super intéressant de rencontrer des jeunes, de voir un peu les ambitions, de voir à quel point les projets sont diversifiés, les intérêts le sont aussi, les compétences. On a aussi l'occasion de parler à des belles personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées et un peu avoir cette opportunité-là de rencontrer du monde de tous bords, en fait. Donc,
quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'image des jeunesses du monde francophone ?
Alors, c'est sûr qu'on peut parler de jeunesse plurielle ici, parce que c'est sûr que c'est des jeunesses qui sont un peu en quête d'identité, en quête d'opportunité aussi. C'est plus les jeunes d'avant qu'on avait, qui voulaient surtout partir à l'étranger. On a souvent des projets de retour au pays, donc je trouve ça extrêmement intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on a une jeunesse connectée, une jeunesse citoyenne du monde un peu, une jeunesse qui est prête à affirmer et à ravenir l'avenir un peu là, donner un peu de peps à ce qu'on voit un peu, que ce soit avec l'Assemblée des jeunes francophones. On a eu plusieurs projets d'entrepreneuriat, comme je disais, qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé de leurs projets, qui nous ont parlé de leur infrastructure, des difficultés qu'ils ont souvent aussi là, en tant que jeunes entrepreneurs, mais aussi de la passion, l'envie, la faim pour faire un projet d'envergure, là, de changer la donne en fait.
Sarah Hamdi de la Fondation du Cirque du Soleil, elle répondait à François-Xavier de Calonne. Cette édition est terminée, encore bravo au Lion de l'Atlas. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.